Voilà, normalement ça devrait marcher là.
Vous m'entendez?
Oui.
Bon, ben voilà, c'est l'essentiel. Alors pour me présenter, c'est rapide, hein. Je suis né en 1943. J'approche de mes... Ben c'est une bonne année. Hein.
Oui, oui.
J'approche de mes 60...
C'est l'année de Johnny Hallyday et de Catherine Deneuve.
Eh bien, exactement. Hein.
On a de bons conscrits. Hein.
Voilà. Je suis né en Provence, donc vous verrez que mon accent, je ne l'ai pas perdu. J'ai fait, comme l'a dit M. Fournier, Supélec. Je suis rentré à EDF, j'ai brûlé beaucoup de charbon. À la centrale de Blénaud-les-Pont-à-Mousson, c'est-à-dire juste à côté de Pont-à-Mousson, on avait quatre tranches de 250 MW. Et pour faire tourner ces quatre tranches de 250 MW toute l'année, on brûlait 3 millions de tonnes de charbon. C'était l'époque où ça tournait à fond. Hein. Et puis au bout de 2 ans dans cette centrale, à l'époque, EDF m'a dit, ou mon chef m'a dit, on cherche des jeunes ingénieurs qui feraient le génie atomique à Saclay pendant 1 an pour démarrer le parc électronucléaire, qui à l'époque était naissant puisqu'il n'y avait que Fessenheim qui était sur les rails. Quoi, hein. Fessenheim qui devait se faire en graphite gaz et puis qui s'est fait finalement en pressurisé. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, et je suis allé faire le génie atomique, à la fois à Saclay, puis après à Cadarache. Et de là, je suis remonté à Fessenheim. Voilà. À Fessenheim, j'ai fait tous les essais de démarrage de la centrale, puisque c'était l'exploitant qui s'occupait des essais avec mon équipe. Je recevais les procédures d'essai de l'ingénierie, du centre d'équipement. Et puis on faisait tous les essais. Et quand j'ai eu fini tout ça, on m'a dit ben, il faut aller créer un centre de formation à Bugey, un centre de formation pour tous les gens qui vont démarrer le parc. Parce qu'entre-temps, bien entendu, on avait passé les grandes commandes du contrat programme numéro 1, du contrat programme numéro 2, et on commençait les 1300. Donc j'ai créé ce centre de formation, ce qui n'a pas été une mince affaire, puisque j'y ai fait 6 ans, j'ai démarré 3 simulateurs, j'ai formé 15 000 jeunes, enfin jeunes et moins jeunes, et puis en 82, on m'a dit, on a besoin de toi comme directeur adjoint du site du Bugey. Je suis allé au site du Bugey, j'étais déjà sur les lieux. Hein. Et puis en 88, on m'a dit, on a besoin de toi comme directeur du site du Bugey. J'ai été le directeur jusqu'en 95. Et là, après, j'ai été délégué régional en Rhône-Alpes. Je connais bien Étienne Cortel, et j'avais surtout son frère, parce qu'on avait le frère Cortel en Rhône-Alpes. Qui a été mon arrière-petit-fils. Il dit souvent que j'ai été son arrière-grand-père parce qu'il m'a succédé, mais après quelques changements. Donc voilà. Et je suis parti à la retraite il y a un certain temps. Et je donne des conférences un peu sur tous les sujets. Je me forme aussi beaucoup dans d'autres domaines. Et là, je vais vous parler du système électrique. C'est pas le réseau, c'est le système électrique. Alors vous allez voir que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on imagine à peu près statique, et c'est vrai que c'est statique, mais vous allez voir que le fonctionnement est très pointu et que c'est un système qui mérite qu'on le regarde de beaucoup plus près. Je vous donne une information, par exemple, vendredi soir à 19h, nous avons frisé la catastrophe, le délestage, parce que nous avions saturer toutes les possibilités d'importation. Nous sommes dans la situation actuellement avec 50% de nucléaire. Hein. Il y a 20 tranches qui sont arrêtées, qui redémarrent les unes derrière les autres. Et on avait tout le charbon qui était sur le pont, tout le gaz qui était sur le pont. On a eu un démarrage à 18h30 de toutes les turbines à combustion, toutes les turbines de pointe. On a eu l'hydraulique qui nous a bien aidés aussi. Et puis, on est passé avec une marge disponible qui était inférieure à la marge requise, ce qui veut dire que le moindre incident, et puis on risquait de plonger la France dans le noir. Quoi. Voilà. Alors moi, j'ai regretté, parce que je fais l'analyse tous les soirs pour mes collègues, et surtout quand on est dans des périodes tendues comme ça, et j'ai regretté que RTE ne fasse pas quand même un message en disant on est passé juste, quoi, parce que ça... Mais ils ne s'en vantent pas trop parce qu'ils sont partisans du 50% nucléaire. Donc on y est maintenant. Faut voir ce que ça donne. Et il ne faisait pas un froid de canard. Hein. Voilà. Alors, système électrique, c'est RTE qui le gère essentiellement, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que RTE qui le gère. Alors, pour le présenter, je fais quelque chose de très simple. C'est une boucle, vous voyez, une boucle sur laquelle vous avez des générateurs d'électricité qui alimentent la boucle, et puis vous avez des récepteurs qui sont des consommateurs d'électricité qui vont soutirer de l'énergie de cette boucle. Voilà. Donc, au départ, on peut symboliser le système comme ça. Alors, quand on est électricien, on dit que là, on est dans une forme de réseau infini, c'est-à-dire que les puissances générées et produites et les puissances consommées sont très grandes, donc on peut compter sur un certain nombre de choses. Alors, il y a eu pendant très longtemps des discussions, pendant très longtemps, jusqu'en 1900, à peu près 1903, des discussions, notamment aux États-Unis, est-ce qu'on fait ça en courant continu ou est-ce qu'on le fait en alternatif ? Bonsoir, monsieur. la question a été tranchée. Ça a été Nikola Tesla, l'homme de l'alternatif et du magnétisme, qui a gagné, tout simplement parce que même aujourd'hui, les générateurs d'électricité, ceux qui ont la tension maximum à la sortie des alternateurs, c'est du 24 000 volts, comme vous voyez là-haut, mais que la boucle, elle, dont il est question, elle fonctionne en 400 000 volts. Donc pour passer de 24 000 à 400 000 volts, il faut des élévateurs de tension, des transformateurs élévateurs de tension, puis ensuite des transformateurs qui réduisent la tension pour les consommateurs. Donc ce sont des machines statiques et ça ne fonctionne que sur du courant alternatif puisqu'il faut des variations de flux dans un circuit magnétique pour induire dans le bobinage, qui est le bobinage en récepteur, une tension différente de la tension d'entrée. Donc ça ne marche que comme ça, mais dans l'avenir, il y a d'autres réseaux qui arrivent, qui se feront en continu parce qu'ils ont de très grandes longueurs et ça évite certains problèmes qu'on a en alternatif, mais il n'y a pas de clients sur le continu. C'est simplement une relation de l'une à l'autre, il y en a déjà d'ailleurs, pour alimenter l'Angleterre. Ils sont tous à une tension de 50 Hz, à une fréquence de 50 Hz, ça veut dire 50 cycles par période. Hein ? En une seconde, vous passez 50 fois sur le cycle. Alors, comment on fait de l'électricité ? Or, il n'y a rien de plus simple que la fabrication d'électricité. Il suffit de faire tourner des aimants devant des bobinages. Vous faites tourner des aimants, alors soit des aimants permanents, soit des électro-aimants. Les aimants permanents, ils servent surtout dans les dernières générations d'éoliennes, mais quand on n'a pas besoin d'aimants permanents, on prend des électro-aimants, et ces électro-aimants, on les fait tourner, on les met sur un rotor d'alternateur, et sur le stator de l'alternateur, on va recueillir une tension qui est fonction à la fois, alors sa fréquence est fonction de la vitesse de rotation du rotor, du nombre de pôles, et puis l'énergie qui est produite, qui est transformée, et c'est l'énergie qui est transmise au rotor par le flux de moteur, la vapeur ou l'eau quand on est dans de l'hydraulique, ou le vent quand on est dans une éolienne. Bon, donc on a une chose comme ça. C'est vraiment très simple. La fabrication d'électricité à partir d'un circuit magnétique et d'un électroaimant qui tourne et puis des bobinages. Alors, ce qui tourne, on l'appelle le rotor, mais on l'appelle aussi l'inducteur, c'est-à-dire c'est lui qui va induire la tension que vous allez avoir, et puis ce qui est sur le stator, c'est-à-dire qui ne bouge pas, on va l'appeler l'induit. L'induit, et c'est de là que va en partir la puissance. Alors, vous voyez que sur le moteur, comme je le dis là, la transformation, c'est une transformation d'une énergie potentielle, ça peut être de l'eau, ça peut être de la vapeur, ça peut être du vent, en énergie mécanique, on entraîne la rotation donc, des aimants du rotor devant les bobines du stator, et lui, c'est l'induit. Donc, l'inducteur porte les électro-aimants, et la tension est fixée par le courant inducteur. Le niveau de tension est fixé par le courant que l'on met dans les bobines du rotor. la puissance est alimentée par la vapeur ou par le truc. Et la vitesse, eh bien, on a une vitesse qui doit être de celle de 50 Hz. Alors, quand on arrive à 50 Hz dans une machine qui est en train de démarrer, qui n'est pas encore couplée sur le réseau, il n'y a pas une grande puissance. Hein. Et puis, on va la coupler sur le réseau, c'est-à-dire on va la mettre en phase avec le réseau et à la même vitesse que le réseau. Et là, à ce moment-là, une fois qu'elle est couplée, on va pouvoir monter en puissance en alimentant en énergie mécanique le rotor de l'alternateur. On l'alimente de plus en plus, jusqu'à 1000, 1300, 1500 mégawatts, etc. Donc on fait plusieurs choses. On a l'énergie mécanique qui arrive, on a la tension qui est induite et la vitesse qui fixe la fréquence. Alors une fois que vous êtes raccordé au réseau, la fréquence est fixée pour tout le réseau. C'est-à-dire que votre machine ne peut plus varier en fréquence, ou si elle varie en fréquence, c'est que tout le réseau varie en fréquence. On le verra tout à l'heure lors des transitoires. Voilà alors. Je vous ai mis le turbo-alternateur de Flamanville, pas de l'EPR, de Flamanville, un 1300 MW actuel. Donc vous voyez, la turbine, là vous ne voyez que... La turbine, c'est la partie la plus grosse. Vous ne voyez que les corps basse pression, le corps haute pression est tout petit, il est de l'autre côté. Et vous voyez arriver la vapeur qui alimente les corps basse pression. Et bien entendu, entre le tuyau que vous voyez gainé avec son calorifuge et la machine, vous avez un énorme robinet chaque fois que vous pouvez fermer. Alors normalement, eux, c'est des robinets qui sont ou ouverts ou fermés. Le robinet de tête qui alimente la partie haute pression, lui par contre, c'est lui qu'on va faire manœuvrer pour envoyer plus ou moins de vapeur. Et puis une fois, parce que la vapeur qui arrive là, c'est de la vapeur qui a déjà travaillé dans le corps haute pression. L'alternateur, c'est la petite partie que vous voyez au bout. Donc dans une centrale, la partie qui fabrique de l'électricité, c'est probablement la plus petite machine de la centrale. Hein. Les gens sont toujours très surpris qu'on s'enquiquine autant pour arriver à faire tourner cette machine, quoi, hein, parce qu'il faut voir tout ce qu'il y a autour pour arriver à faire tourner ça. Voilà, alors là j'ai pris à Montépin la centrale hydroélectrique de Montépin. Alors là pratiquement on ne voit plus rien parce que les turbines sont complètement au-dessous, c'est des turbines en haut bien entendu, et puis l'alternateur est au-dessus. Et là, vous n'avez que la partie, ce qu'on appelle l'excitatrice, c'est-à-dire ce qui va alimenter le rotor en tension. Hein, on va monter la tension à partir de cet appareil. Donc voilà, là, c'est très joli comme ça. Là. C'est beaucoup plus joli qu'une centrale nucléaire. Hein. Bon. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Alors, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre tout de suite. C'est qu'un système électrique, c'est un système qui est très vivant. Il faut qu'à tout instant, la production égale la consommation. Or, s'il y a une chose qui varie tout le temps, c'est la consommation. Et la production, ben, elle doit suivre. Elle doit suivre soit en montée, soit en descente. Alors, pour vous donner l'indicateur de tout ça, c'est la vitesse. C'est le 50 Hz. La fréquence, il faut vous dire que c'est exactement la vitesse d'une voiture. Vous êtes sur le plat, vous avez une pression habituelle sur l'accélérateur et tout, vous êtes à 120 km à l'heure, vous arrivez dans une côte, et bien si vous maintenez la même pression sur l'accélérateur, votre voiture va ralentir. Donc ça, si la consommation augmente et que vous ne changez pas la production, vous allez baisser en fréquence. Donc c'est la fréquence qui va nous permettre de réagir systématiquement. Si vous arrivez dans une descente avec la même pression sur l'accélérateur, vous allez accélérer. Et là, c'est le moment où la consommation diminue. Si vous gardez la même production, eh bien vous allez avoir la fréquence qui va augmenter. La fréquence, c'est l'image de l'équilibre permanent entre la production et la consommation. Et la fréquence, elle est la même pour toute la boucle que je vous ai donnée tout à l'heure. Et ça, c'est notre indicateur absolu du fonctionnement du système électrique. Alors vous voyez, un indicateur qui donne à tout instant l'équilibre entre la production et la consommation. Elle est fixée à 50 Hz et c'est une grandeur commune. C'est-à-dire qu'elle est connectée, nous sommes connectés avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Belges, etc. Et nous avons une fréquence de 50 Hz dans tous ces réseaux-là, avec une bande de réglage de plus ou moins 0,5 Hz. Si vous dépassez les 0,5 Hz, alors là, vous commencez à avoir des gros soucis. Donc, ça, c'est les pays dits de l'Union européenne qui sont connectés entre eux et qui ont cette règle. On appelle ça le code des réseaux. Hein, le code des réseaux, c'est 50 Hz, plus ou moins 0,5. Et on vous demande, dans chaque pays, de participer à ce réglage. Alors, je ne parle pas de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est pareil, c'est 50 Hz aussi, mais l'interconnexion qu'on a avec l'Angleterre, elle passe en sous-marin, et donc là, on a fait des câbles à courant continu avec une station de transformation alternative continue et continue alternative de chaque côté de la Manche. Donc, on n'est pas synchronisé vraiment avec l'Angleterre. On passe par du courant continu. Mais les Anglais fonctionnent avec les mêmes règles de code réseau. Je vous signale une curiosité, c'est le Japon. Le Japon, vous avez la partie sud du Japon, une grande partie sud, qui fonctionne en 50 Hz, et toute la partie nord du Japon fonctionne en 60 Hz. Ce qui ne doit pas être très facile à régler. Hein. Alors, est-ce qu'on a des réseaux simples ou des réseaux bouclés avec des générateurs et des récepteurs? Là, vous voyez, c'est un réseau bouclé. L'intérêt du réseau bouclé, c'est que vous avez plusieurs générateurs de puissance qui envoient de l'électricité, vous avez plusieurs consommateurs qui consomment de l'électricité. Donc, vous allez voir que c'est très intéressant pour nous. Il faut dire que le réseau est dit réseau de transport, mais en fait, c'est plus un réseau de répartition, c'est-à-dire on va répartir au plus près l'énergie. J'avais un directeur à l'époque à la production de transport à EDF qui disait « Le réseau, moins il transporte, mieux on se porte. » Parce que c'est comme ça qu'on limite les pertes de joules sur le réseau. Alors, il est alimenté par des générateurs de puissance alternatifs, il alimente des récepteurs, il faut qu'il soit à l'équilibre tout le temps, et le réseau le plus robuste que nous ayons, c'est le 400 000 volts. C'est celui qui est le réseau primaire en France, 400 000 volts. Il y a eu une époque où on s'est posé la question de passer en 800 000 volts. Ça ne s'est pas fait, parce que bon, on n'a pas vu tout l'intérêt que ça avait. Il faut voir les travaux que ça représente. Hein. Changer de niveau de tension sur le réseau national et sur tous les réseaux européens, c'est un travail énorme. Donc, mais pour ceux qui connaissent Satolas, enfin, Saint-Exupéry, maintenant, quand vous prenez l'autoroute qui va vers Satolas, à un moment donné, vous descendez un petit peu quand vous arrivez avant de prendre l'embranchement de Satolas, et vous avez un pylône, un très grand pylône qui supporte des lignes 400 000 volts, et qui était en fait un pylône de 800 000 volts, qui avait été fait pour voir ce que donnerait si jamais on devait passer du 800 000 volts. Donc voilà. Alors, il est bouclé, il y a des boucles et il y a des mailles. Vous allez voir après. Alors, le réseau 400 000 volts de RTE. Alors, vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait simple, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas une grande boucle. Vous voyez, c'est tout ce réseau rouge avec l'intérêt d'avoir des boucles. Si vous regardez, par exemple, la partie sud-ouest du réseau, vous voyez qu'entre Bordeaux, Aigleton, ça c'est les noms des postes, hein, vous avez une boucle complète qui est faite. Donc, avec une boucle, on peut à un moment donné la déboucler, faire des travaux, etc. Mais vous avez en France deux presqu'îles électriques qui nous posent beaucoup de soucis, c'est PACA. Donc vous voyez, à PACA, vous n'avez pas de boucle. Vous ne fermez pas la boucle. Et ça, c'est un vrai souci parce que, par exemple, ce qui arrive assez fréquemment, c'est qu'en Provence, il y a des feux de forêt et il arrive assez souvent qu'on est obligé d'ouvrir la ligne qui alimente depuis Boutre-Carrosse, c'est à Nice, et puis l'autre, c'est à Manosque, en gros. Si vous ouvrez cette ligne, vous n'avez plus rien sur la région de Nice. Et moi, je l'ai vécu en plein été. C'est en pleine journée, les pompiers avaient fait ouvrir la ligne parce qu'ils passaient avec les canadaires dessus. Ça fait drôle, quoi. Perdre du courant en plein été, tous les magasins sont éteints, les feux marchent plus, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Bon. Donc, là, il n'est pas bouclé. Donc, vous voyez que quand vous ouvrez la boucle, vous n'avez aucun secours qui revient. Pareil en Bretagne. Vous voyez, en Bretagne, vous avez deux antennes qui filent comme ça, mais le bout de la Bretagne. Alors, je suis désolé parce que il paraît qu'il aurait fallu travailler sur
le réglage,
mais bon, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Hein, je suis totalement incompétent. Mais en Bretagne, vous avez deux antennes qui partent aussi, et si une des deux vient à être défaillante, eh bien, il y a toute une personne de la Bretagne qui n'est plus alimentée. Vous allez voir que ce n'est pas aussi dramatique que ça, parce qu'on a des sous-réseaux qui sont des fois des boucles. Alors, vous voyez, moins on transporte, mieux on se porte. Ça, c'était le slogan d'un de mes directeurs. Pourquoi ? Ben parce qu'on a moins de pertes par effet joule. C'est-à-dire qu'on essaye de répartir. C'est un réseau de répartition. Ça fonctionne tout seul. Hein. C'est un peu comme les rivières de moindre pente. Hein. C'est-à-dire que vous avez un récepteur qui est à côté, eh bien, il va être alimenté par le générateur le plus proche. On ne va pas faire 2000 km à l'électricité pour l'alimenter. Ça fonctionne par étapes, comme ça. De même, quand on prend de l'interconnexion en Allemagne, ça alimente d'abord les régions proches de l'Allemagne, mais ça n'alimente pas Nice. Ça va pousser et ça va aller jusqu'à Nice. Ben, on a un niveau de tension élevé parce que on veut réduire l'intensité qui transite dans ces boucles, puisque la puissance est toujours U que multiplie, là c'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous élevez la tension, pour la même puissance, vous baissez l'intensité. Et l'intensité, c'est le son carré qui donne les pertes par effet joule dans les câbles. Et puis, c'est pour ça que le réseau RTE, on dit au total, les pertes de transport sont de 10%, mais le réseau à très haute tension, non, il est de 3%. Ce qui perd, c'est surtout ce qu'on appelle le petit chevelu, enfin, j'ose pas en parler, mais c'est la distribution qui perd parce que elle a d'abord un maillage extraordinairement fin, et puis, ben, c'est sur ces longueurs-là qu'on va perdre de l'énergie. Et puis, vous avez un sous-réseau à 225 000 volts. Alors, vous allez voir que c'est très intéressant d'avoir ce sous-réseau parce que ça nous permet de boucler certaines fois quand c'est débouclé et ça nous permet d'alimenter, parce qu'on alimente très peu finalement les gens en 400 000 volts. Il y a peu de consommateurs en 400 000 volts, à part le réseau de 225 000 et puis à part quelques grands consommateurs. Alors, je vais peut-être prendre le... Voilà. Je vais prendre le cas où vous avez une avarie sur le réseau très haute tension, 400 000 volts. Bon, vous voyez là, j'ai fait une diapo avec de la foudre qui tombe dessus, et ça arrive assez fréquemment d'ailleurs. Hein. Mais vous en apercevez pas. Parce que vous allez voir comment c'est réglé. Vous avez ça aussi. Vous voyez, ça, c'était en 99, lors de la tempête, eh ben, vous avez eu un pylône d'angle qui a lâché, d'ancrage, et puis vous avez toute une série de pylônes qui se sont effondrés. Et vous voyez, ça paraît très, très solide, mais quand c'est soumis à des grands événements comme ça, ça se froisse comme une feuille de papier. Voilà. Alors, c'est dommage qu'on ne voit pas le bout. Vous avez là-bas, alors, ce que vous ne voyez pas du côté gauche, vous avez un générateur qui vous envoie, avec le générateur 1 et le générateur 2, qui vous envoie de la puissance, laquelle puissance va passer sur le sous-réseau de 225 000 volts par la boucle jaune. Là. Et puis, vous avez le transformateur de l'autre côté, qui, lui, pourrait alimenter, mais vous voyez, le disjoncteur est ouvert. Bon, donc, ce n'est pas lui qui alimente, c'est le transformateur T2 avec sa boucle. Et puis vous avez, de part et d'autre du générateur, vous avez aussi un disjoncteur sur le 400 000 volts, d'un côté et de l'autre, D1, D2. Bon. Là, maintenant, vous arrivez à un incident. Alors, le générateur 2 est isolé, parce que soit c'est un incident qui est propre au générateur, soit c'est un incident qui affecte la portion de ligne sur laquelle il débite. Donc là, vous ne savez pas pour l'instant qui est en avarie. Mais vous voyez bien que ce ne peut plus être le transformateur T2 qui alimente la boucle du dessous. Donc automatiquement, le générateur 1 va alimenter parce que le disjoncteur qui est sur le transformateur T1 va se fermer. C'est comme ça, et ça c'est des automatismes du réseau. Vous ne voyez rien quand il y a un incident de type foudre, de type neige collante qui peuvent endommager une portion de réseau ou un défaut électrique propre au générateur qui l'alimente. Donc à ce moment-là, on ferme l'autre côté et vous ne voyez rien. Alors, on va voir les réseaux de 125 000 et 400 000 volts. Voilà. Alors, vous retrouvez là, en rouge, le réseau 400 000 volts, mais vous voyez que ce réseau 400 000 volts, il va débiter sur du réseau vert, qui est le réseau à 225 000 volts. Ce réseau à 225 000 volts nous permet, par exemple, en Bretagne, d'avoir une boucle sur le réseau de 225 000 volts. Donc, si on perd une des deux antennes rouges, on arrive encore à alimenter, peut-être plus faiblement, mais alimenter le bout de la Bretagne. Par contre, si vous reprenez la partie, la presqu'île électrique de PACA, vous voyez que même avec le réseau vert, vous ne fermez pas la boucle. Donc, vous avez un peu plus de sûreté, parce que si vous perdez le 400 000, vous avez encore le 225 qui peut alimenter depuis Manosque vers la région de Nice, mais avec une puissance moindre. Vous n'avez pas toujours les mêmes quantités d'électricité. Mais ça permet quand même, la plupart du temps, d'irriguer le territoire. C'est un peu les artères et les veines, quoi. Vous irriguez le territoire et la plupart des consommateurs sont branchés sur le 225 000 volts. Alors, je dis les consommateurs, l'essentiel des consommateurs, c'est la distribution. Actuellement, c'est Enedis. Enedis est alimenté par le réseau 225 kV qui lui alimente sur ses portes de source après du 90 000 volts, et puis après, il descend à 20 kV, et puis après, il descend en 220, 380, celui que vous avez chez vous. Donc voilà, le réseau est fait comme ça. Alors là, vous voyez partir sur le réseau rouge, vous voyez le câble qui part vers l'Angleterre, là-haut, en partie nord. Vous voyez les deux câbles qui vont vers l'Espagne, en bas.
Avec le pointeur.
Avec le pointeur, c'est vrai. Ce serait plus simple. C'est fait pour. Voilà, vous voyez, ça c'est vers l'Espagne, il y en a deux. Vous avez vers l'Italie, vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci, qui viennent en gros de la Savoie. Vers la Suisse, vous en avez deux qui partent vers ici. Vous avez aussi vers la Suisse ces deux-là. Celui-là, c'est vers l'Allemagne. Vous avez celui-là qui est vers l'Allemagne et les deux autres ici qui vont vers la Belgique. Donc vous voyez qu'on est bouclé et interconnecté. Alors l'intérêt de l'interconnexion, il est double. Marcel Boiteux, quand il était président d'EDF, il disait, comme on n'a pas les mêmes heures de pointe et qu'on n'a pas les mêmes pointes de consommation en puissance, faire respirer le système électrique d'un pays sur l'autre, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut approvisionner la France par des pays voisins ou les pays voisins être approvisionnés par la France quand ils ont leur période de pointe. Et quand on fait l'enveloppe globale de tout ça sur la puissance installée en Europe, eh bien, on gagne à peu près 10% de puissance installée. Or, ce qui coûte très très cher, c'est la puissance installée. Si vous arrivez à économiser 10% de puissance installée, vous économisez beaucoup. Donc l'intérêt des interconnexions, il est aussi économique. Mais il est aussi sur la sûreté du réseau électrique. C'est-à-dire que si vous avez un ennui sur votre réseau électrique, vous êtes immédiatement secouru par vos voisins. Je prends un exemple qui s'est produit en 2006. En 2006, il y a eu un blackout presque accidentel en Allemagne. Et pour vous dire à quel point ça le système réagit, c'est que vous avez toute la chaîne de la Durance qui est ici, en vert, là, qui s'est mise à c'était en pleine nuit, hein, qui s'est mise à débiter à fond. Parce qu'on avait un appel de puissance vers l'Allemagne pour éviter de délester la totalité de l'Allemagne. Ils ont eu quand même une partie de l'Allemagne dans le noir. Ils ont été très embêtés. Et c'est pas trop sorti dans la presse, mais nous, on a fait une étude de cet incident. C'est un incident grave, quoi. On pourrait avoir ce type d'incident. Donc c'est intéressant d'avoir des voisins qui vous secourent en cas d'incident. Ben, c'est la solidarité électrique, quoi. Alors le réseau bouclé, je vous ai dit, beaucoup de machines. Alors des machines qui sont des machines synchrones, dites synchrones, c'est-à-dire des alternateurs de centrales thermiques, de centrales nucléaires, de centrales hydrauliques, c'est-à-dire qui sont mis à la vitesse du synchronisme. Et puis, vous avez des machines de plus en plus aujourd'hui qui nous posent beaucoup de problèmes, parce que ce sont des machines comme les éoliennes qui vous font de l'énergie électrique, mais qui ne peuvent pas vous garantir la fréquence. Donc, vous êtes obligé de redresser ce qui sort de l'éolienne et ensuite de l'onduler, c'est-à-dire d'avoir des onduleurs qui vont vous le mettre à 50 Hz avec tout un paquet d'harmoniques qui vont polluer l'onde électrique. Donc ça commence à poser des problèmes du côté des harmoniques. Mais le problème du côté statique, c'est qu'ils ne participent pas au réglage de fréquence. Ils ne peuvent pas participer au réglage de fréquence. Vous allez voir comment on participe. De même que les panneaux photovoltaïques, eux, par définition, ils sont en continu. Donc on va onduler, on va les mettre à la fréquence du réseau. Mais si le réseau a besoin d'une augmentation de puissance, vous ne pouvez pas demander à vos panneaux photovoltaïques de participer, tout comme vous ne pouvez pas demander aux éoliennes de participer. Donc ça pose quand même des problèmes sérieux. Et puis dans les récepteurs, ben vous avez de la tension inférieure qui va alimenter des récepteurs dont l'impédance, ce qu'on appelle l'impédance, c'est-à-dire en gros la résistance électrique mais en alternatif, qui est très variable. Alors voilà le réglage de fréquence. Alors là, je vous ai mis une courbe qui vous donne la prévision de la puissance appelée par la France. C'était le 19 février 2017, donc c'était cette année, c'était pas très élevé, hein. Ça devait atteindre 76 000 MW, etc. C'était pas une période très froide. Donc vous voyez l'allure que ça a. Donc la consommation de la France, c'est pas une droite. La consommation de la France, eh bien, vous arrivez à 0 h, vous descendez jusqu'à 4 h, ensuite vous remontez jusqu'à 8 h lentement, mais à 8 h, paf! Vous faites une pointe, vous arrivez jusqu'à 12 h, à 10 h, c'est le moment où les gens rentrent chez eux, remettent en route leur cuisinière, etc. Puis hop, vous redescendez jusqu'à 16 h. À 16 h, vous avez à peu près la base, et puis vous avez 19-20 h, là, alors, vous repartez vers la pointe. Et puis, après, vous avez une autre pointe qui démarre, qui est essentiellement l'utilisation des appareils qu'on met en route volontairement, comme les cumulus, comme les accumulateurs d'eau chaude, hein, et qui permettent d'être sortis des périodes de pointe pour être alimentés pendant les périodes de recreuse. C'était comme ça qu'on les appelait. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a une prévision de puissance. À partir de cette prévision de puissance, bien entendu, RTE va faire vis-à-vis de tous les producteurs d'électricité, toutes les sources de production d'électricité, va leur demander un programme de fonctionnement. Alors, pour ce programme de fonctionnement, ça va être, bien entendu, un empilement des moyens de production depuis les moins chers vers les plus chers. Alors, les moins chers, ben, ce qu'on a, de toute façon, c'est l'hydraulique au fil de l'eau. Ça, de toute façon, si vous l'utilisez pas, c'est perdu. Donc, on l'utilise en premier. Et après, le moins cher en France, c'est le nucléaire. Donc, vous allez mettre les centrales nucléaires. Puis, pour passer les pointes, vous allez soit avoir encore un peu de nucléaire, soit vous n'en avez plus. Ben, vous avez du thermique classique. Et puis, vous allez tirer sur l'hydraulique. Alors, l'hydraulique déclusée, c'est-à-dire les barrages qui se remplissent tous les jours et qui peuvent débiter le soir ou à midi. Et puis, vous pouvez aller jusqu'au lac, c'est-à-dire les lacs d'altitude et les réservoirs d'altitude qui ne se remplissent qu'une seule fois dans l'année. Donc, on essaye de les conserver pour les moments où on aura le plus de pointes. Ça fait pas beaucoup de puissance, enfin, ça fait beaucoup de puissance, ça fait pas beaucoup d'énergie parce qu'on va les utiliser pendant des périodes relativement courtes. Alors, en ce moment, par exemple, sur les 23 000 mégawatts installés d'hydroélectricité au total, on a environ 3 à 4 000 mégawatts en permanence. Et puis, on a des productions qui montent jusqu'à 15 000 mégawatts qui, aux périodes de pointe, soit le matin, parce que là, la courbe, c'est au mois de février. En novembre, c'est plutôt une pointe à 9 heures le matin. Et après, on redescend un peu, on remonte à midi, et puis on remonte ce soir, très fort, à 19 heures. Et donc, on va faire cette préparation, c'est-à-dire que chaque centrale va recevoir un programme de marche de RTE. Voilà. Et c'est sur ce programme qu'on va fonctionner. Mais ce programme, il est prévisionnel. Rien ne dit qu'après, on va avoir cette courbe ou qu'on ne va pas avoir des producteurs qui vont disparaître à un moment donné du réseau parce qu'ils ont une avarie. Donc, il va falloir ajuster en permanence. Alors voilà, j'ai pris cet exemple pour vous faire voir ce que ça donne. Alors, vous avez une tranche de 1300 MW qui va déclencher. Alors, c'est dommage qu'on ne voit pas la partie gauche, parce qu'on verrait qu'on descend en gros de 300 mHz. On était à 50 Hz, là-haut, on descend à 300 mHz. Et puis après, on va amortir complètement la descente, et vous allez voir comment ça s'amortit. Puis après, on va reprendre de la puissance pour remplacer ces 1300 MW manquants, et on va remonter à 50 Hz. Alors vous voyez que là, en gros, ça se passe à 11h14, et à 11h20, on a retrouvé donc en 6 minutes, on a retrouvé la fréquence de départ. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas tout seul, il y a des automatismes, et puis il y a d'autres choses qui vont venir derrière. Donc vous voyez, les automatismes et les machines synchrones. Alors, les machines synchrones, pour faire attention à ça, pour réagir vis-à-vis de ça, il y a deux choses, je reviens derrière. D'abord, il faut voir que ce sont des machines tournantes. Et ces machines tournantes, elles ont de l'inertie. Elles ont de l'inertie puisqu'on les a mises en rotation, et c'est elles qui vont amortir, c'est cette inertie qui va amortir la baisse de fréquence. Alors, c'est plus compliqué que ça à comprendre, c'est que ce qui tourne, c'est le rotor. Et c'est pas lui qui débite sur le réseau. Celui qui débite sur le réseau, c'est le stator. Mais vous avez un couplage magnétique très fort entre le rotor et le stator, ce qui fait que quand le stator voit la baisse de fréquence, bien entendu, il va freiner le rotor. Et le rotor qui est freiné, lui, on va enregistrer sa perte de vitesse, et c'est comme ça qu'on va admettre un peu plus de vapeur, admettre un peu plus d'eau, si on peut, parce que toutes les tranches ne peuvent pas participer au réglage de fréquence. Et vous allez voir qu'il y a trois réglages. Il y a le réglage primaire. Alors là, il y a des automatismes sur les machines. Ces automatismes, on va les voir tout à l'heure, c'est des automatismes qui vont enregistrer l'écart de fréquence entre la fréquence réelle du réseau et le 50 Hz, la référence, et qui vont ouvrir les robinets de vapeur, les robinets d'eau, pour qu'on remonte en puissance. Donc ça, c'est un réglage tout à fait automatique. Il se fait tout seul. Mais on a une réserve secondaire aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, une fois que les automatismes ont permis de remonter à 50 Hz, on n'a plus de réserve primaire. Souvent, on n'a plus de réserve primaire. Donc, il faut la reconstituer. Et pour la reconstituer, il faut une réserve secondaire. C'est-à-dire que là, c'est une action volontaire qui va être faite par les producteurs d'électricité à la demande de RTE. RTE va dire, elle sait où il y a de la réserve secondaire, elle va dire, bon, ben, telle tranche va monter à telle puissance plutôt que sur son programme prévisionnel. Et là, on va reconstituer comme ça la réserve primaire. Et puis, il y a une réserve tertiaire, alors qui se fait vraiment manuellement, au cas où on a vraiment un coup dur, on va démarrer ou on va faire monter en puissance des appareils qui fonctionnaient, mais qui étaient très peu sollicités, et qui n'étaient pas sur la branche primaire ni secondaire, qui sont en réserve tertiaire. Alors, souvent, on utilise les trois. Hein. Alors, surtout en hiver, on utilise les trois. Voilà. Alors, voilà comment ça se passe. Vous avez le déclenchement. Donc, vous voyez, là-haut, vous avez le déclenchement, et puis vous avez, donc, le delta de fréquence. Le delta de fréquence, il apparaît tout de suite, vous voyez en bas, hop. Et là, ce delta de fréquence, il est amorti simplement parce que toutes les machines qui tournent, alors, il y a non seulement les machines qui produisent, tournantes qui produisent, mais aussi toutes les machines tournantes qui sont clients, qui sont des consommateurs, et qui, elles aussi, ont une inertie et donc vont réagir. Hein. Donc, ça va stabiliser complètement votre fréquence. Mais ça va la stabiliser à un niveau plus bas. Donc, c'est inacceptable. Alors, à ce moment-là, vous avez le réglage primaire qui arrive. Vous voyez, RP, ça, c'est le réglage primaire qui va vous faire remonter en fréquence. Et puis, quand votre réglage primaire a déjà travaillé, à ce moment-là, l'action manuelle, ça va être de dire, je vais monter en puissance les endroits où j'avais de la puissance disponible pour remplacer le producteur qui a disparu et pour redonner, vous voyez, ma réserve primaire, elle redescend et je me ramène à une réserve primaire telle que celle que j'avais avant. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième incident, j'ai de nouveau de la réserve primaire. Voilà. Mais j'ai moins de réserves secondaires. Donc si vous avez deux ou trois ennuis comme ça, eh bien il faut faire appel à de la puissance tertiaire, à la réserve tertiaire que vous avez là, et qui va, elle, reconstituer la réserve secondaire. Hein, vous enchaînez réserve primaire automatique, réserve secondaire, là c'est manuel, réserve tertiaire, c'est encore manuel. Et ça, c'est essentiel parce que vous avez en permanence sur le réseau des consommateurs nouveaux qui arrivent, des consommateurs importants qui arrivent, des consommateurs importants qui disparaissent. Donc, il vous faut réagir en permanence. Et si vous ne réagissez pas en permanence, vous ne maintenez pas votre fréquence. Je ne sais pas si ça a été clair, là. Alors, voilà comment ça fonctionne. Hein. C'est tout simple. Vous avez un régulateur qui prend votre fréquence à 50 Hz, vous voyez en haut. Vous voyez que vous avez une puissance de consigne. Ah oui, pardon. J'oublie toujours de m'en servir, ce truc. Vous avez, voilà, la fréquence de départ. Vous avez une puissance de consigne, ici. Et puis, vous allez avoir, si vous avez une baisse de fréquence, vous avez une puissance fournie qui va augmenter. Et puis, elle peut arriver sur ce qu'on appelle le limiteur. Alors là, quand vous êtes en limiteur, vous ne participez plus à la réserve primaire. Donc, l'intérêt de revenir à la puissance de consigne, c'est vraiment la régulation secondaire qui vous permet de le faire pour retrouver de la réserve primaire, qui elle va agir de façon automatique. Alors les groupes qui sont sans réserve primaire, les voilà, eh bien c'est les opérateurs qui vont faire le même travail, mais sur demande du dispatcher qui va dire « moi j'ai besoin que tu fasses ça ». Bon, les ordres sont les ordres, hein, les producteurs d'électricité sont aux ordres des dispatchers. On ne pose pas de questions. C'est eux qui ont la main, parce que le temps d'avoir des questions et des réponses, le réseau serait par terre. Hein. Donc, un réseau, je vais vous dire, un réseau ilien, c'est-à-dire un réseau qui est juste sur lui, quoi, hein, un réseau, la Corse par exemple, ou la Martinique ou la Guadeloupe, en gros, on considère que si on ne rétablit pas la fréquence dans les 6 secondes, on a un blackout. On perd complètement le réseau. Et le réseau national, lui, c'est en gros dans les 10-12 secondes qu'il faut réagir. Alors, toutes les machines qui peuvent participer au réglage primaire partent tout de suite, toutes seules. Et on réagit dans les 10-12 secondes. Mais si vous passez les 12 secondes, alors là, vous êtes vraiment, vous risquez de partir en blackout. Donc, c'est un réglage qui est très, très actif. Hein. Vous voyez qu'un réseau, c'est quelque chose qui réagit en permanence parce qu'il y a, des réglages. Voilà, alors le réglage secondaire, il est là, vous le voyez. Ben, vous pouvez entrer, monsieur, vous serez le bienvenu. Et le réglage secondaire, ben, c'est pareil, mais là, c'est le dispatcher qui sait quelles sont les machines qui peuvent ramener de la puissance, qui vont se mettre à un niveau de puissance supérieur, et en montant en puissance, elles vont faire revenir les machines qui participent au réglage primaire à leur puissance consignée. Et puis, vous avez des machines qui, d'entrée de jeu, ne peuvent plus jouer sur le réglage primaire. Alors, les machines qui ne peuvent plus jouer sur le réglage primaire, par exemple, c'est les centrales nucléaires dans le dernier tiers du cycle du combustible, parce que là, on les bloque en puissance pour pas qu'elles participent à ça, parce que ça induit sinon, alors pour les gens qui sont un peu du nucléaire, des oscillations xénon, et qu'on arrive difficilement à calmer, et souvent, ben, on arrive à l'arrêt automatique du réacteur. Donc, on ne s'amuse pas avec ça, parce que ça aggraverait les choses. Donc, on dit au dispatcher, nous, on est bloqué en puissance. Par contre, quand vous êtes en début de cycle, vous avez tout un tas de machines qui sont à disposition du dispatcher. Alors ça, il faut le savoir, c'est les machines qui sont en téléréglage. C'est-à-dire que vous avez une tranche de 900 MW. Vous dites au dispatcher, en accord avec lui, je me mets à 800 MW en base et je te laisse 100 MW à la montée, 100 MW à la descente. Donc, les ordres vont arriver directement du dispatching. La centrale est en pilotage automatique depuis le dispatching. Hein, le dispatching va la faire monter, descendre, etc. Et vous allez enregistrer les choses avec une bande de puissance. Alors, ça peut être 100 MW, ça peut être 50 MW, tout dépend de vos possibilités, suivant l'avancement dans le taux d'usure du combustible. Donc, le téléréglage est très utilisé. Alors, c'est quelque chose de très français. Vous ne trouvez pas du téléréglage dans tous les pays. Ça, c'est... Pourquoi c'est très français ? Parce que avant, c'était un grand monopole. Donc, il y avait l'amont qui produisait, il y avait le transporteur qui transportait, mais qui, en même temps, faisait le chef d'orchestre de tout ça. Le chef d'orchestre du réseau, c'est le transporteur. Et puis, vous avez les consommateurs qui sont au bout, du côté de la distribution ou du côté du transport. Mais le téléréglage, c'est une invention française parce que tout ça, c'était un groupe, le même groupe. Dans beaucoup de pays, il y avait des groupes qui étaient des producteurs, d'autres qui étaient des transporteurs, d'autres qui étaient des distributeurs. Donc, il n'y avait pas cette notion de téléréglage. Et le téléréglage est resté malgré la décomposition du système avec la production, le transport, la distribution. On a conservé cette habitude de téléréglage. Combien de temps ça durera, je ne sais pas, mais ça marche très bien et je crois que personne ne remet ça en cause pour l'instant. Alors, vous voyez, la réserve primaire, elle est assurée par l'ensemble des Européens interconnectés au réseau. Ah, alors ça, il faut bien le savoir. On n'est pas seul à réagir, on est tous ceux qui sont interconnectés, même si sur l'interconnexion, à un moment donné, il ne passe pratiquement rien, on est quand même solidaire en puissance en réserve primaire. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ça permet de réduire la réserve primaire de chaque pays. C'est-à-dire que vous voyez, on a en gros, on a considéré que sur la plaque de l'Union européenne, au moins des pays de la plateforme continentale ouest, quoi, c'est-à-dire en gros l'Allemagne, la Hollande, la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, on est liés et on a considéré que la perte de puissance instantanée pouvait être de 3000 MW. Et on se répartit ces 3000 MW sur tous ces pays. Donc après, la répartition se fait au prorata des puissances de chacun des pays. On ne va pas demander au Portugal de fournir la même chose que la France. Donc on a comme ça des répartitions qui sont faites. Et on a un gestionnaire de réseau européen qui s'appelle NSOE, qui est plutôt un organisme de concertation des gestionnaires de réseau et qui arrive à gérer tout ça. Alors bien entendu, si la puissance électrique du réseau européen venait à augmenter, ce qui n'est pas du tout impossible compte tenu des transferts d'usage que l'on envisage pour le transport, par exemple, à ce moment-là, ben, tous ces chiffres seraient revus à la hausse. Hein ? Alors, la puissance secondaire réglée depuis le dispatching, ben, vous voyez ça, on a des puissances, tous les groupes de 120 MW et plus ont obligation d'avoir de la réserve secondaire. Et cette réserve secondaire, elle est compris entre 500 et 1000 MW selon la période de l'année. Parce que suivant la puissance consommée dans l'année, on n'a pas besoin des mêmes réglages possibles. Et le tertiaire, alors ça, c'est le mécanisme d'ajustement, c'est toujours manuel. Toujours manuel, c'est sur un ordre du dispatching. On va faire du réglage tertiaire pour reconstituer le réglage secondaire qui lui-même a reconstitué le réglage primaire. Voilà. En France, si on était en réseau séparé, la perte d'une grande centrale ferait qu'on perdrait 260 milliards. Et avec le réseau interconnecté européen, c'est-à-dire avec toute la puissance du réseau interconnecté européen, la chute de fréquence pour la même perte, elle n'est plus que de 65 milliards. Donc vous voyez qu'on perd beaucoup moins, mais derrière c'est parce que tout le monde participe au réglage de fréquence. Alors bien entendu, ça c'est vrai pour le réglage primaire. Pour les réglages secondaires, c'est chacun des gestionnaires de réseau qui connaît les réglages secondaires qu'on peut demander à chacune des centrales. Et là, il n'y a plus de question d'interconnexion. Chacun va demander ce qu'il peut, quoi. Mais les dispatchers européens se parlent régulièrement, hein. Ils sont liés en permanence. Alors, je ne sais pas si je m'aventure là. Quelle heure c'est ?
On a encore une demi-heure.
Encore une demi-heure ?
Question comprise.
Question comprise ? Bon, on peut s'arrêter là, si vous voulez.
Oui, parce que là, je pense que ça va...
Là, je vais vraiment dans le détail. Alors, attendez. Je vous fais voir quand même quelque chose. Oui, voilà le réseau interconnecté. Donc vous voyez, c'est toujours la même boucle, mais là, je fais figurer les grandes interconnexions. Alors voilà, la France est interconnectée un peu partout. Alors avec l'Espagne, ça a dû augmenter, je ne sais plus par rapport à cette diapo. Sachez que la France, par exemple, est encore le seul exportateur d'électricité de la France et le plus grand d'Europe, hein, et même probablement le plus grand du monde. Là, c'était une mauvaise année, 2016 ça a été une mauvaise année, mais en 2017 nous avions 75 milliards de kilowattheures en solde, parce que un réseau, ça respire, ça importe, ça exporte, ça importe, ça exporte, et puis à la fin, on fait le compte entre les moins et les plus, et puis là, on est exportateur. Alors, c'est très intéressant, parce que quand vous regardez le site des douanes, vous apercevez qu'avec 50 TWh exportés en solde exportateur, ça représente à peu près 2,5 milliards d'euros qui rentrent dans notre balance des paiements du bon côté. Alors, notre balance des paiements qui est à 65 milliards d'euros déficitaire, là, la deuxième... Et l'intérêt surtout, c'est que si vous prenez le parc nucléaire français, nous achetons sous forme chimique compacte de l'uranium naturel qui est traité ensuite en France, et nous en achetons au cours de l'uranium actuellement, nous en achetons 9000 tonnes par an, et au cours de l'uranium, ça nous coûte en gros 450 millions d'euros pour faire tourner tout le parc français. Et avec ça, on ramasse quand même 2,5 milliards d'euros de soldes exportateurs. Donc c'est quand même une bonne opération, à la fois pour la France et pour le parc français. Alors, qui sont nos gros clients à l'exportation ? L'Italie, structurellement déficitaire. Alors cette année, en plus, c'est dramatique en Italie, parce qu'ils sont comme nous, dans la région Rhône-Alpes, là, et même au nord. Il y a une terrible sécheresse. Et eux, l'hydraulique représente 15% de la production en Italie. Chez nous, elle est à 11-12%. Donc, en Italie, ils sont très déficitaires. Ils sont déjà déficitaires normalement, mais avec cette sécheresse, ils sont encore plus déficitaires. Et ils ont de très gros soucis. Nous sommes exportateurs presque permanents vers les Anglais. L'Angleterre est aussi structurellement déficitaire. Avec l'Espagne, on respire beaucoup. Là, ils nous ont beaucoup alimenté les deux dernières semaines. Mais sitôt qu'on a de l'exportation, ils achètent. Donc, on a dû acheter assez cher. Et avec l'Allemagne, alors, pour l'instant, on est pratiquement légèrement exportateur. Mais l'Allemagne, avec l'arrêt de ses réacteurs, là, il y en a un qui s'arrête d'ici décembre, c'est Grödemingen. Les autres arrivent en 2019, 2020 et 2021. Et puis, ils vont surtout arrêter 15 000 mégawatts de centrales thermiques et au lignite en 2022. D'ailleurs, c'était une grande discussion dans la constitution de la coalition allemande. Les Verts disaient, on ne veut pas attendre 2022 pour les arrêter, on veut commencer à les arrêter dès 2018. Ça fait que l'Allemagne, structurellement, se dirige vers un déficit d'électricité. Et ce déficit va être 300, parce que quand on regarde les prévisions allemandes, ils prévoient d'importer en solde net 100 milliards de kilowattheures en 2050. Je ne sais pas qui c'est qui va leur fournir. Donc vous voyez que l'Allemagne est dans une situation quand même difficile. Et aujourd'hui, elle vend de l'électricité qui est faite avec du charbon et du lignite. Le charbon n'est pas cher, le lignite, il est fourni chez eux. Donc ça va. Mais là, de toute façon, avec leur centrale à charbon et lignite, ils loupent l'objectif qui s'était donné de 40% de baisse de CO2 en 2030. Ça, c'est clair. Ils loupent complètement. Alors, les Verts, ils poussent pour qu'on les arrête plus tôt, mais ils n'ont pas de solution de remplacement. Voilà. Et le nucléaire, de toute façon, va s'arrêter parce qu'ils n'ont rien prévu pour le prolonger, donc il n'y a plus d'espoir, quoi. Donc, eux vont devenir structurellement déficitaires, et peut-être plus tôt qu'on l'imagine. C'est-à-dire, moi, je pense qu'ils vont devenir structurellement déficitaires dès 2020. Donc, ça va être un problème. Parce que ça me pose un gros problème. RTE vient de faire un bilan prévisionnel franco-français. On ne peut plus faire un bilan prévisionnel 2017-2025 en regardant que son nombril. Il faut regarder ce que font les voisins. Or, les voisins, parce que RTE dit, on passera à l'EPIC, il suffira d'importer 8000 mégawatts. Sauf que faudra les trouver. Et nos voisins, 2025, la Belgique a dit, on sort du nucléaire en 2025, on arrête tout. L'Allemagne est structurellement déficitaire dès 2020. Les Suisses ont dit, au fur et à mesure que les centrales s'arrêtent, on ne les refait pas, on n'en refait pas de nouvelles. Les Italiens, ils n'ont aucun projet. Les Espagnols n'ont aucun projet. Donc, je crois qu'il faudrait quand même regarder ce qui se passe autour de nous. Parce que le pire dans un pays, c'est de devenir insuffisant en production d'électricité pour sa consommation propre. Parce que l'électricité, ça ne se transporte pas. C'est pas comme le gaz liquéfié. On n'a pas encore inventé le transport d'électricité liquéfiée par des méthaniers. Donc il faut réfléchir à une autonomie électrique. On verra bien ce que feront les voisins. Mais au moins que chez soi, on arrive à s'alimenter et qu'on ne compte pas sur nos voisins qui ont des politiques tout à fait différentes des nôtres. Et ça, moi, c'est le premier gros. Je suis en train de faire une revue de détails de ce bilan prévisionnel. La première aberration, c'est ça. Comment peut-on imaginer de faire un truc comme ça sans regarder ce qui se passe chez les autres? Voilà, on est le pays le plus exportateur d'Europe. Vous le voyez, c'est le pays vert, là. On exporte plus de 30 TWh. Bon, ça. Ah oui, alors, simplement. L'éolien est là. Non, ça, je vais passer. Voilà, c'est un château de cartes. Voilà, alors ça, c'est très intéressant. Vous vous souvenez, en 2003, là-haut, 2003, c'était la nuit blanche en Italie. C'était la grande fête de la nuit blanche, comme on le fait à Paris ou ailleurs, à Rome. Sauf que ce jour-là, alors l'Italie, vous la voyez à peine, elle a ses buts de satellite, et vous voyez que la France, l'Allemagne, tout ça est allumé, l'Espagne est allumée, l'Angleterre est allumée, mais l'Italie est dans le noir. Alors elle est dans le noir parce que l'interconnexion qui arrive d'Allemagne et qui passe par la Suisse, elle a été rompue. Et cette rupture a fait que personne n'a pu les secourir complètement, et donc ça fait un blackout en Italie. Et au lieu d'avoir la nuit blanche, ils ont eu la nuit noire. Donc vous voyez, le système a, ça, c'est pas une vue de l'esprit. Ça nous est arrivé en France en 1978. Hein, on a mis le pays dans le noir et reconstitué un réseau électrique. En 1978, on était peut-être un peu moins dépendant de l'électricité. Aujourd'hui, ce serait une catastrophe. On calcule que un jour de blackout en France, d'abord, ça ne peut arriver que pendant un jour ouvrable, c'est-à-dire le moment où on consomme le plus. Les jours ouvrables, il y en a 220 dans l'année. Le PIB, c'est 2200 milliards. Et calculé, c'est 10 milliards de pertes pour la France. Un jour de blackout, c'est 10 milliards de pertes. Sans compter toutes les émeutes, les pillages, parce qu'il ne faut pas grand-chose hein, dans un certain nombre de quartiers pour que le blackout se transforme en émeute et en pillage. On l'a vu d'ailleurs même au grand jour à Saint-Martin. Vous avez vu, les gens, ils allaient se servir dans les grandes surfaces, et les gendarmes leur disaient, mais attendez, ils passaient devant les gendarmes avec le frigo, la machine à laver, etc. Bon. Alors voilà, ça c'est une image qu'il faut avoir à l'esprit. En 2006, j'ai pas les images, mais je vous garantis qu'on est passé juste, vraiment très très juste. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention. Ça c'est un pylône dit d'ancrage, parce que si vous regardez un peu les pylônes, ils ne sont pas tous les mêmes. Vous avez des pylônes qui sont supportent simplement les câbles. Puis, normalement, tous les N pylônes, vous avez des pylônes d'ancrage, et notamment quand les câbles font un angle. Alors là, vous avez de gros ancrages, c'est des pylônes qui sont plus gros que les autres, qui vont tenir tout le système. Si jamais un pylône comme ça s'efface, alors là, vous avez une vingtaine d'autres pylônes qui tombent en même temps, quoi. Voilà. Alors, les questions.
Merci Jean. Donc on va. Oui, ben on commence, oui, les questions. Donc la première.
Une dame.
Oui.
Ouais, ça marche.
C'est avec la pile de l'UTB.
Ah oui, on voit que c'est l'université de technologie de Bourgogne. Tout marche, sauf le.
Sauf le vidéo.
Oui, madame.
Oui, monsieur, j'aurais deux questions à vous poser. Tout ce système de régulation, est-ce qu'il y a un ou plusieurs sites et où ça se passe, tout ça? Et deuxième question, c'est les interconnexions entre tous les pays européens. Ça date de quand et c'était à l'initiative de qui?
Alors, je réponds à la première question. Vous avez en France un dispatching central qui est à Paris et vous avez des dispatchings, il y en a un à Lyon par exemple, mais vous en avez un à Nancy, vous en avez un je ne sais plus où, et à Nantes. Le dispatching central a la main sur les autres dispatchings, c'est-à-dire qu'il a à la fois. Il donne des ordres, mais il a aussi la remontée d'informations des autres dispatchings. Donc, c'est le dispatching central qui est le chef d'orchestre. Dans d'autres pays, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en Allemagne, vous avez trois gestionnaires de réseau, chacun a son dispatching. Donc, il faut que les dispatchings principaux discutent entre eux en permanence. Mais les règles sont les mêmes, c'est-à-dire que, par exemple, les réglages primaires sont partout les mêmes. Vous aviez, alors je ne sais plus très bien aujourd'hui comment ça se passe, vous aviez en gros un dispatching européen qui était à Lofotenburg, en Suisse. Et Lofotenburg avait la vision complète de ce qui se passait en Europe. Bon, est-ce qu'il joue encore ce rôle aujourd'hui avec autant de... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais c'est les choses comme ça. Les interconnexions, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne exactement comme le reste du réseau, c'est-à-dire qu'on fixe des règles. Par contre, les interconnexions, elles ont des limites de puissance qui sont déterminées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on va faire passer 10 000 MW si l'interconnexion est prévue que pour 3 000 MW. Bon, donc on sait les limites de chacune des interconnexions. Qui a eu l'initiative de ça? Ben écoutez, je ne sais pas trop vous répondre. Je pense que c'est un système qui s'est construit après la guerre de 40. Moi, je l'ai toujours connu. Je suis rentré en 67 à EDF. Je l'ai toujours connu. Enfin, en 69. Vraiment en 69, parce qu'entre les deux, j'ai fait mon service militaire. Mais j'ai toujours connu ces interconnexions et j'ai toujours connu le discours de Marcel Boiteux, qui disait « on gagne beaucoup en puissance installée ». Donc je pense, les grands réseaux se sont développés après la guerre de 40. Après la guerre de 40, ça a été les grands réseaux. Parce que les grands réseaux, c'est des outils de mutualisation. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup des petits réseaux locaux, etc., etc. Si je vous donne mon avis, je risque d'en choquer quelques-uns. Ici, c'est une connerie. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la puissance souscrite par tous les clients en France, elle est 6 fois supérieure à la puissance installée. 6 fois supérieure à la puissance installée parce que on joue sur le fait que tout le monde ne va pas appeler sa puissance souscrite en même temps. Bon, donc on a réussi, grâce à cette mutualisation du réseau, à réduire les puissances installées, ce qui coûte très très cher, d'un facteur 6. Si maintenant vous faites des réseaux à l'échelle du quartier, vous n'êtes plus du tout certain que vous allez avoir ce foisonnement de puissance. Donc il va vous falloir monter la puissance installée à l'échelle du quartier et ça va vous coûter beaucoup plus cher. Voilà. Et c'est comme ça. Alors, ça pose des sérieux problèmes. De même que aujourd'hui, la distribution Enedis fait tout un tas d'études parce que jusqu'à maintenant, les puissances injectées par les éoliennes, par le photovoltaïque n'étaient pas très importantes, bien que ce soit des puissances ondulées, des ondes qui étaient complètement impures, totalement parasitées par les harmoniques, ce qu'on appelle les harmoniques, donc vous avez une espèce de hachoir, quoi. Hein. Et au plus ça augmente, au plus ça pose des problèmes. Donc les problèmes, il va falloir installer, entre les interfaces qu'on a vues tout à l'heure et le réseau, il va falloir installer des filtres pour éliminer les harmoniques parasites et pour avoir une onde un peu plus pure. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les éoliennes et le photovoltaïque ne participaient pas au réglage, tout simplement parce que qu'est-ce que vous allez demander à une éolienne? Qu'elle ouvre le robinet du vent? Non. C'est pas possible. D'abord, c'est pas possible parce que elle tourne, elle débite, elle sort sa puissance, et puis, c'est tout ce qu'elle sait faire. Alors, aujourd'hui, les fabricants de grandes éoliennes, c'est des éoliennes à pas variable pour les pales, donc ils disent si on reste à 80% de la puissance possible avec une vitesse de vent déterminée, on peut éventuellement participer au réglage de fréquence. Alors, c'est vrai. Mais c'est plus un réglage primaire comme celui qu'on connaît. Il n'est pas du tout. Il a pas du tout. C'est un réglage primaire, mais très mou, quoi. Il arrivera. C'est un peu comme les carabiniers italiens, quoi. Il arrivera après la bataille. Donc, ça pose ce problème-là. Le photovoltaïque, par définition. Mais ça pose un autre problème. Alors ça, je vous en touche un petit mot. On a dit tout à l'heure l'inertie des machines tournantes. Alors cette inertie, vous la créez parce que vous avez une machine, par exemple un récepteur. Il va démarrer de zéro, il va appeler beaucoup de puissance à son démarrage, parce qu'il va se mettre en rotation, donc il va emmagasiner son moment d'inertie, puis après, il absorbera de l'énergie en fonction du travail qu'on va lui demander. Mais la puissance de départ est très supérieure à la puissance qui est celle de fonctionnement normal. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de court-circuit, c'est-à-dire quand vous mettez en marche un moteur, vous avez un très fort appel de courant. Si vous, derrière une interface statique, vous ne pouvez pas accepter ça, sinon vous détruisez l'interface statique. Voilà. Donc les interfaces statiques ne peuvent pas répondre aux puissances de court-circuit. Et ça, c'est un problème. Parce qu'au plus on en aura, alors les Allemands qui en ont de plus en plus, commencent à avoir des problèmes très sérieux là-dessus. C'est pour ça que les dernières études qui ont été faites par les études et recherches à EDF disent en gros, si on compte l'hydraulique, l'hydraulique qui, elle, participe au régulage de fréquence, participe à la puissance de court-circuit, si on compte l'hydraulique et si on regarde l'échelle européenne, on ne peut pas mettre plus de 40% d'énergie renouvelable intermittente. Au-delà, on a des instabilités réseau qui vont nous faire casser la gueule. Alors, quand vous entendez des gens qui vous disent on peut faire 100% de renouvelables en 2050, c'est des gens qui n'y comprennent rien. Voilà. Et pourtant, c'est des bons, hein, mais ils n'y comprennent rien, ils n'ont jamais exploité un réseau. Oui, monsieur.
Je réagis sur votre dernier propos. Ça peut être de l'énergie renouvelable à partir de bois ou en ce
alors, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, si vous avez de l'énergie renouvelable thermique, l'énergie renouvelable thermique, vous pouvez l'avoir de deux façons, soit sous forme de chaleur directe, et moi c'est ce que je préconise, parce que c'est la meilleure utilisation qu'on puisse en faire, c'est-à-dire en gros un réseau de chauffage au bois ou au méthane, au biométhane, ça marche très bien, soit vous en faites de l'électricité, ce qui est le cas, parce qu'on le voit bien, mais lui, il est réglo, il nous approvisionne régulièrement. Mais là, ce n'est pas la meilleure utilisation qu'on puisse en faire, parce que derrière la méthanisation, qui n'a pas un rendement extraordinaire, vous faites encore un abattement de rendement par le cycle de Carnot. Donc moi, je dis, utiliser les renouvelables thermiques, il faut les utiliser sous forme thermique, et pas en faire de l'électricité. Mais bon...
La question que je voulais vous poser, c'est actuellement, la plupart de l'éolien est rattaché au réseau par des réseaux moyenne tension. On arrive sur des postes de 63 000 volts, pas très loin.
Oui.
Il y a un poste, celui d'Épinac, qui, l'hiver, va consommer en puissance 11 mégawatts et l'été, 5 mégawatts, 5 à 6. Mmh. Or, on vient de brancher dessus 18 mégawatts en éolien. Comment se fait l'inversion de courant ? Au moment où il y a plus de production.
Disons qu'on va laisser passer le fatal, c'est-à-dire l'éolien, et on va compléter par de la production.
Mais physiquement, il y a une interruption.
Ça se fait automatiquement. Mais sachez bien que quand on vous dit on branche dessus 18 MW d'éolien, ces 18 MW d'éolien, au minimum, en France, on trouve qu'ils peuvent produire jusqu'à 0,3% des 18 MW. Si vous prenez le point mini de toute la production éolienne française l'an dernier, qui faisait 12 000 MW installés, ça a été 45 MW. Et la production maxi, ça a été autour de 66-67%. Donc, vous voyez, quand on vous dit 18 MW d'éolien, c'est la puissance des machines, les unes ajoutées aux autres. Mais, en gros, vous dépasserez jamais 70% de ces 18 MW et vous descendrez très bas. Vous descendrez à rien, quoi, des fois. Parce que vous les voyez tourner, mais vous n'imaginez pas qu'elles produisent ou qu'elles ne produisent pas, parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de vent, ça tourne, mais ça ne produit rien. Sachez qu'une éolienne, la production, c'est le cube de la vitesse du vent. Le cube de la vitesse du vent, c'est-à-dire que...
C'est le cube de la vitesse du vent.
Ouais.
Puissance,
la puissance, de la vitesse du vent.
De la vitesse du vent.
Donc si vous avez...
90 km/h, c'est génial. À 60, il y en a 10 fois moins.
Oui, mais à 90 km/h, alors le problème, c'est que c'est génial. Mais non, si vous montez à 92, paf, elle s'arrête. Voilà. Elle se met en drapeau et vous n'avez plus rien. Et contrairement à ce qu'on imagine aussi... Quand on voit les taux de charge des éoliennes, il y a monsieur là-haut, les facteurs de charge des éoliennes en Allemagne, pour l'offshore, c'est-à-dire celles qui sont en mer, on trouve des facteurs de charge aujourd'hui qui sont à peu près égaux aux facteurs de charge terrestres. Alors qu'on avait dit qu'ils vont être en gros beaucoup plus élevés. Ce n'est pas le cas.
Oui, il y a deux mots que vous n'avez pas prononcés, c'est gaz et fuel. C'est des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer avec le niveau...
Alors, non, attendez. Parce qu'il y a le principe de réalité. Hein. Si Hulot il fait faire un blackout en France, il ne restera pas longtemps au gouvernement. Hein. Le gaz, on a en France actuellement des cycles combinés à gaz, c'est-à-dire en gros, vous avez des systèmes qui combinent une turbine à gaz, qui est un gros réacteur, mais qui sort des produits d'échappement, l'émission de gaz à l'échappement, il sera en gros à 700 degrés, 700, 600 degrés. Donc avec ça, on les fait passer dans un échangeur de chaleur où on va mettre de l'eau. Et avec ces gaz, on va faire bouillir l'eau dans ces échangeurs de chaleur, voire la surchauffer, et on va faire tourner une turbine à vapeur. L'avantage de ces cycles combinés gaz, c'est que quand vous prenez la machine complète en fonctionnement permanent, vous avez des rendements de 60%. Donc, c'est quand même des machines intéressantes. Celle de Bouchain, par exemple, elle bat tous les records. Hein. La dernière machine qu'on a installée en France, elle bat tous les records. Et puis, vous pouvez également, en saison, par exemple l'été, dire « je ne fais fonctionner que le réacteur s'il est sollicité ». Donc, vous pouvez démarrer le réacteur et ne pas démarrer le reste, parce que le reste prend beaucoup plus de temps que le réacteur à démarrer. Donc, vous démarrez que le réacteur. En France, dans ces cycles combinés au gaz, on en a à peu près 7000 MW. Et la semaine dernière, ils ont tourné à fond tout le temps, presque tout le temps. En charbon, il nous reste 3000 MW. Il y a trois centrales d'EDF de 600 MW, et puis il y a deux centrales de E.ON, qui s'appelle Uniper, les anciennes centrales des charbonnages de France, une en Lorraine, à Émile-Huchet, et une à Gardanne, celle qu'on appelle Provence 5. Donc on peut avoir jusqu'à 3000 MW de centrales charbon. Centrale fuel, il n'y en a plus qu'une, mais qui n'a pas tourné depuis le début de l'automne, et qui doit s'arrêter définitivement au mois d'avril prochain. C'est la centrale de Cordemais, qui est une centrale de 700 MW fuel, et je ne sais pas pourquoi elle ne tourne pas, il n'y a pas de date annoncée de retour sur le réseau. Bon, ça, mystère. Mais on peut peut-être compter dessus cet hiver, mais c'est tout. Elle sera fermée l'année prochaine. Et on a, alors après, on a ce qu'on appelle les turbines à combustion, c'est-à-dire les turbines des réacteurs qui démarrent au fuel, alors qui n'ont pas de bon rendement, mais qui sont utilisés que pour passer des pointes. Vendredi soir, par exemple, à 18h30, d'un seul coup, j'ai vu sur le tableau de RTE toutes les turbines à combustion démarrer. Et quand vous les additionnez, vous arrivez en gros à 1200 MW. C'est des machines qui font 120 MW pièces à peu près, et vous en avez une dizaine. Et celles-là, quand on les démarre, c'est que vraiment, il ne reste plus rien. Quoi. On n'en a plus sous la pédale. Hein. Il ne reste vraiment plus rien. Donc il vous reste du gaz. Alors l'avantage du gaz aussi, c'est que si vous faites 1 kWh avec du charbon, vous faites 1 kg de CO2. Si vous faites 1 kWh avec du fuel, dans une centrale au fuel, pas avec les turbines à combustion, hein. Si vous faites 1 kWh avec une centrale au fuel, vous faites 800 g de CO2. Si vous faites 1 kWh avec une centrale combinée, cycle combiné gaz, vous faites 380 g de CO2. Donc c'est intéressant. Mais c'est plus cher que le charbon et c'est plus cher que le fuel. Et les turbines à combustion le coûtent très cher parce qu'elles ont de très mauvais rendements et elles émettent beaucoup de CO2. C'est des rendements de 20-25%. Quoi.
Une deuxième question. On exporte du courant en Allemagne et ce courant est majoritairement produit par des centrales nucléaires. Pourquoi on ne leur exporte pas les déchets
le principe de base des exploitants nucléaires, et ça c'est un principe qui est fixé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est que chacun récupère ses déchets. Alors, il y a plusieurs façons. Soit on fait comme certains pays, on vient les faire retraiter chez nous à La Hague, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines de retraitement dans le monde. Il y a celle de La Hague qui marche, et qui marche bien, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc on vient les faire retraiter à La Hague, et on récupère les déchets retraités. Par exemple, les Japonais. Les Japonais, c'est ce qu'ils font, et en plus, ils font comme nous, ils récupèrent leur plutonium, et ils font fabriquer les assemblages au plutonium à Marcoul, à l'usine de Mellox. Ils récupèrent soit des assemblages moxés, soit des déchets dont ils doivent s'occuper chez eux. Pendant longtemps, on a retraité les déchets des Allemands, mais on les renvoyait régulièrement en Allemagne. Quand ils sont suffisamment froids, on les renvoie en Allemagne. Là, les Allemands ont décidé depuis 2011 qu'ils ne faisaient plus retraiter, donc ils vont devoir mettre en structure géologique non seulement les déchets à longue durée de vie, qui représentent 4% de l'ensemble des déchets du combustible, ils vont mettre tout le combustible, puisque c'est les 4% en question qui vont fixer la durée de vie de ces déchets. Donc ils sont en train de réfléchir. Ils n'ont aucune solution autre que les solutions géologiques, mais ils n'en ont exploré aucune. Ils avaient une mine de sel, mais qui s'est avérée totalement défaillante.
Dernière question. De plus en plus, maintenant, on voit apparaître des variateurs. Alors, les variateurs, ce sont des trucs qui produisent beaucoup d'harmoniques.
Les variateurs font aussi des harmoniques. Mais en général, vous les avez chez vous. Vous polluez éventuellement votre onde propre à votre consommation, mais vous n'allez pas bien loin. Par contre, ce qui se trouve aujourd'hui et qui marche très très bien, c'est les variateurs de vitesse par variation de fréquence dans les usines. C'est-à-dire que on ne fait plus varier, par exemple, un débit par un robinet qui se ferme ou qui s'ouvre. On fait varier simplement la vitesse de la pompe par la vitesse de variation du moteur. Et là, on joue sur une fréquence. On récupère de l'énergie à 50 Hz, et on fait varier la fréquence de 50 Hz pour alimenter le moteur.
Merci.
Oui, moi j'ai une petite question. On a eu quand même ces 20, 30, 40 dernières années le développement de l'électronique de puissance. Je suppose que ça a été utilisé dans le réseau pas mal. Je voulais savoir à peu près quel était l'ordre de grandeur. Et ça m'entraînait une autre réflexion, c'est que finalement, imaginons qu'en France, il n'y a aucun réseau, il n'y a rien du tout. Est-ce que ce ne serait pas intéressant au jour d'aujourd'hui, avec la technologie que l'on a, de faire un réseau de courant continu, contrairement à ce qui a été fait au départ? Voilà.
Alors...
Et puis j'ai une dernière petite remarque. Sur le commerce extérieur, il ne faut pas oublier aussi qu'on exporte du MOX.
Oui, non, mais il rentre. Mais ce n'est pas la même rubrique dans le site des douanes.
D'accord.
Le site des douanes, il y a le commerce d'électricité, puis il y a après les produits combustibles nucléaires. Alors, et d'ailleurs, on n'arrive pas à savoir si c'est de l'enrichissement qui est fait à la demande à Tricastin ou si c'est du retraitement. C'est pas différencié. C'est un tout, un paquet. L'électronique de puissance, elle sert énormément, surtout pour développer les éoliennes et le photovoltaïque. Sans électronique de puissance, les éoliennes seraient restées à des génératrices asynchrones, comme les premières éoliennes qu'on a eues, c'est-à-dire qui se mettaient à débiter que lorsque leur vitesse aurait dépassé la vitesse du synchronisme, et puis qui s'isolaient après. Et là, maintenant, avec l'électronique de puissance, les éoliennes, elles tournent à la vitesse qu'elles veulent, elles fabriquent l'énergie qu'elles peuvent fabriquer, et l'électronique de puissance permet de transformer cette énergie et de la mettre sur le réseau. Donc, l'électronique de puissance, ça fait faire un grand pas sur la puissance produite, enfin l'énergie produite par les éoliennes. Elle a fait faire un grand pas sur le domaine photovoltaïque. Dans le réseau lui-même, bon, bien entendu, c'est pas de l'électronique de puissance, c'est surtout des capteurs de plus en plus importants qui sont dispersés sur le réseau et qui ramènent de l'information via l'informatique sur les baies qu'ont les dispatchers, et on donne aux dispatchers de plus en plus d'informations pour le régler le plus en plus fin. Mais l'électronique de puissance nous a permis, par exemple, sur les groupes turbo-alternateurs de centrales nucléaires, de remplacer l'excitatrice, qui était une machine à courant continu qui était aussi grosse que l'alternateur. On l'a remplacé par un petit truc comme ça, avec des diodes qui tournent et qui nous redressent une partie du courant qu'on prélève sur le stator, on le réinjecte dans le rotor. Donc on a fait des gros gains avec l'électronique de puissance sur les excitations, par exemple. C'est essentiellement ça. Bon, après, non, à part ces quelques exemples, c'est pas tellement... Ah si, alors c'est utilisé pour les variateurs de vitesse. De plus en plus aujourd'hui, les fabricants de matériel électrique, comme les fabricants de moteurs, les moteurs Leroy ou Schneider et tout ça, ils proposent à leurs clients, si le moteur doit faire, enfin, si la consommation du moteur doit beaucoup varier, de leur mettre un variateur de fréquence parce que ça économise beaucoup d'électricité. Hein, on ne fait pas de l'électricité, enfin, on fait pas de la puissance en pure perte. Donc, on joue là-dessus. Et puis maintenant, c'est des machines, enfin, ces régulateurs de fréquence, enfin, ces variateurs de fréquence sont des machines très solides, très robustes. Au début, c'était les bêtes à chagrin, mais maintenant, ça marche bien. Ça marche très, très bien.
Bien, on va te remercier, Jean. Et donc, merci. Et on va s'arrêter là parce qu'on pourrait poser des questions encore. Merci d'être venu.